Clameur du Labyrinthe, deuxième édition, deuxième émission.
L'émission du festival Dédale en direct, en live et en public du Cadran. Oui, poursuivons, je ne sais pas.
Le festival Dédale est un festival organisé par le Tangram au Cadran qui propose différents spectacles pour un public de jeunes adultes sur toute la semaine.
Exactement, vous l'aurez compris, cette émission sera animée également par des jeunes, à savoir Laetitia, Xavier, Junior, Célie et Manon. À la réalisation, nous retrouverons également un autre de nos jeunes, à savoir Thomas. Eh bien, on poursuit, mais non, sinon on poursuit. Ben, c'est ça les joies aussi des émissions en live et en direct. C'est tout un plan sans accroc que nous avions préparé et puis finalement qui vient se heurter aussi à la dure réalité de ce que nous vivons. Ben, c'est pas bien grave. Nous avons tout de même un sommaire, Manon. Qu'allons-nous retrouver dans ce sommaire?
Alors, dans cette émission, nous allons d'abord retrouver les micro-trottoirs de la sortie du spectacle Le garçon du dernier rang qui s'est joué ce matin.
Voilà, et c'est vous qui avez tourné donc, ces micro-trottoirs en sortie de salle.
Exactement. Ensuite, Régus vous proposera les échanges avec le public qui ont suivi le spectacle.
Exactement, parce que nous travaillons donc avec le service jeunesse qui propose une radio, une vidéo diffusion sur les réseaux sociaux et propose également de rediffuser ça ensuite sur le site internet du service jeunesse et celui du Tangram. Donc l'ami Régus a donc travaillé également avec nous.
Puis nous recevrons Caroline, Marie et Nathalie des relations publiques du Tangram.
Bah oui, pour en savoir un petit peu plus sur l'envers du décor et comment s'organise et se prépare ce festival.
Et nous avons capté le travail des créations de Métro Verlaine et de Karine Serre. Nous allons vous proposer quelques petits extraits.
Exactement, et le public pourra venir voir d'ailleurs la présentation publique au Club du Cube à partir de 18h30 et l'entrée est gratuite bien entendu.
Et pour démarrer cette émission, nous sommes en compagnie des membres du collectif Escandard, Samuel Gallet, Pauline Salle, Aela Gouvernec et Grégoire Ternois. Qui à 14 ans nous embarquait dans la pièce qui s'appelle La bataille d'Escandar et on en parlera plus en détail.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour. Alors la première question c'est...
Comment vous avez venu l'idée de cette pièce ?
Alors, nous on est un collectif qui rassemble des écrivains, des musiciens et des comédiens. Donc ça fait longtemps qu'on travaille ensemble sur ces formes-là, entre le concert, le théâtre, la musique et le théâtre. Donc déjà, on avait déjà beaucoup travaillé ensemble. L'idée de cette pièce, elle est venue par un intérêt qu'on a eu sur la question du rêve, de comment on peut travailler aujourd'hui sur le rêve, les rêves qu'on fait quand on dort, hein, je veux dire. Comment on peut s'intéresser à ça, sur la manière que les gens ont de rêver aujourd'hui, de parler de leurs rêves, de pas du tout s'en souvenir ou de pas du tout en parler, rêve ou cauchemar. Et comment peut-être le rêve peut être un moyen pour raconter notre époque, raconter le rapport que chacun en entretient avec notre époque, avec les endroits où on vit. Et donc ça, c'était vraiment ce qui a été un peu l'envie de travailler sur ça, de faire une cartographie des rêves, d'inventer une ville qui serait la ville des scandales, la ville des rêves, ou en tout cas la ville qui se cache derrière la vie réelle, la ville imaginaire. Quoi. C'est ça, comment c'est parti.
Et le mot escandard, alors, comment est venu ce mot?
Alors escandard. En fait, il est venu sur deux choses. Il est venu parce que escandard, ça veut dire Alexandrie en persan, donc la référence à la ville mythique et imaginaire. Et puis c'était aussi, un jeune garçon que j'avais rencontré dans un atelier à Saint-Priest, dans la banlieue de Lyon, avec qui j'avais eu c'était une très belle rencontre. Et c'est un peu un hommage comme ça pour sa poésie. Voilà.
D'accord. Pour la question suivante, pourquoi avoir choisi de diriger le rôle principal par une femme et non par un homme ?
Ça, c'est plutôt une question, en effet, pour Samuel, puisqu'il a écrit la pièce. On peut quand même juste se dire que, en fait, avec Samuel, on se connaît depuis longtemps. On s'est rencontrés à l'ENSAT, qui est une école de théâtre. Où Samuel est rentré dans le département écriture, c'est la première promotion de ce département Et moi, j'y étais présente en tant qu'écrivaine avec d'autres écrivains. Et on donnait comme ça, de manière un peu à bâton rompu, nos conseils aux jeunes écrivains. Et ça a été une rencontre forte, donc on ne s'est plus quitté depuis je crois que c'était en 2003, on s'est dit ça y est. Et du coup, à un moment donné, comme j'ai la chance de diriger un théâtre, on s'est dit avec Samuel que ce serait bien qu'il écrive une pièce. Et puis peu à peu, Samuel m'a dit, bah ouais, mais ce qui serait vraiment d'autant mieux, c'est qu'on la joue tous les deux. Et évidemment, dans son esprit, il y avait déjà Grégoire et Aïla, les deux musiciens. Et donc j'ai eu la chance que Samuel m'écrive ce très beau rôle de Madame de Fombanel.
D'accord.
Alors j'ai aussi appris que vous avez fait une collecte de rêves en collaboration avec des collèges, plus particulièrement à Navarre. Et je voulais savoir comment ça s'est passé, cette collecte de rêves.
Ça s'est très bien passé déjà. Donc on a fait deux collectes. On a fait une collecte à Ménil-sur-Iton, où donc les membres du collectif ont collecté les rêves auprès des habitants. Et puis on est allé au collège de Navarre, et là c'était une formule un peu différente parce qu'en fait il y a une classe avec laquelle on a travaillé qui a collecté avec nous, donc ils ont été aussi collecteurs de rêves et ils ont fait le travail qu'on fait d'habitude nous en tant qu'artistes. Eux l'ont fait avec nous, et à la fin de la semaine il y avait une restitution, ils ont participé aussi avec nous. Donc on avait 2-3 jours de collecte où on est allé, on a collecté des rêves donc des enseignants, de l'administration et des élèves du Collège de Navarre. Et puis après, on a travaillé, on faisait en parallèle des ateliers de musique, de jeu et d'écriture. Et à la fin de la semaine, on a fait une présentation du travail qu'on avait fait sur 5 jours. Voilà.
En tout pour tout, ça vous a pris combien de temps à monter ce projet ?
Le projet depuis la bataille des Scandards, c'est un projet qui a mis 2 ans.
D'accord.
Du moment où on a commencé à réfléchir sur vraiment la question du rêve, les répétitions, jusqu'au moment où on l'a joué au Préau, donc au Centre Dramatique de Vire, ouais, ça a à peu près mis 2 ans. Et après, ça fait déjà 2 ans qu'on a créé ce spectacle, donc ça fait en tout 4 ans qu'on est sur ce projet-là, les Scandards.
Et le temps de répétition, en revanche, hein, c'est un temps de répétition de 4 semaines.
D'accord.
Alors, quelle place donnez-vous au rêve dans la vie de tous les jours ? Dans votre vie de tous les jours.
J'en récolte, donc tu vois, je collecte des rêves.
Après, donc permis des rêves.
Voilà, c'est ça. Non, merci. Moi personnellement, j'ai plutôt, c'est plutôt le rapport à la poésie, quoi. C'est-à-dire vraiment le fait qu'on peut être surpris par la manière dont les gens nous racontent leurs rêves. Et puis moi personnellement, c'est toujours ces endroits un peu justement. Très surprenant de comment on agence des choses, on mélange des choses de quelque chose de très quotidien ou de quelque chose de très présent, une chose qu'on a vécue récemment avec du passé lointain, avec des choses qui surgissent comme ça. Donc c'est un rapport d'intérêt. Moi, ça m'intéresse beaucoup parce que je trouve que c'est quelque chose qui toujours continue, moi, à me surprendre beaucoup. Après, des fois, je rêve pas du tout. Et donc, on rencontre des gens qui nous disent « Non, on se souvient jamais de nos rêves, etc. » Moi, souvent, je dis « Bah oui, moi aussi, c'est... » quelque chose dont je ne me souviens pas, mais je m'aperçois, en tout cas c'est un peu une chose qu'on a pu échanger ensemble, c'est que parler beaucoup des rêves, ça fait que souvent on se remet en jeu, et on s'en souvient, et voilà. Et ça continue à être très, très fécond.
D'accord. Quelles différentes contraintes peut-on rencontrer durant la création d'une pièce telle que la bataille des Scandards ?
On en rencontre pas mal. Déjà, je dirais une contrainte budgétaire. Parce que c'est important de savoir qu'il y a une production pour les spectacles. Et donc la production, par exemple, ça réduit le temps de répétition. C'est vrai qu'on a quand même monté vite ce spectacle. Ça fait 2 ans. C'est intéressant de se dire que pendant 2 ans, on y réfléchit. Et puis on a 4 semaines pour le faire.
Il
vaut mieux pas se tromper. Donc ça, c'est une première contrainte. Après, l'endroit où on répète aussi, ça peut être une contrainte. Ça peut être des salles plus ou moins confortables, on peut être plus ou moins bien accompagné. Après, on a fait, on peut dire quand même, ce spectacle, comme il a été soutenu par un centre dramatique, on l'a fait dans un relatif confort. En tout cas, on peut aussi travailler dans des conditions beaucoup plus difficiles.
D'accord.
Et alors, je voulais juste savoir le message, quelle est la morale de l'histoire ? Qu'est-ce qu'on doit ressentir à la fin du spectacle ?
Euh, bah, je, ouais.
Vous, qu'est-ce que vous avez ressenti à la fin du spectacle?
Alors, j'étais très triste d'apprendre que le chien est mort à la fin et qu'on a servi de son sang pour faire un bonhomme élégant, un homme élégant, je veux dire.
D'accord, d'accord. Bah ouais, ouais. C'est, bah, en tout cas, là, c'est pas mal parce que la fin, elle est un peu comme ça. Elle est un peu, on conclut pas justement.
Oui, voilà, exactement.
Et on reste sur une inquiétude, en fait. C'est un peu ça l'idée. Mm-hmm. Donc, non, non. Nous, c'est ça. On n'a pas forcément un message à donner. C'est-à-dire que on travaille plutôt un monde. Quoi. On se dit, bah tiens, cette femme qui peut être chacun d'entre nous. Enfin, voilà, qui vit ça. Comment on peut essayer d'imaginer, enfin, de lui donner d'autres espaces, en fait, hein, travailler sur d'autres espaces un peu surprenants qu'elle peut avoir, ses rêves, cette ville, parce que finalement c'est elle qui l'invente, cette ville, avec ses animaux, avec ses choses parfois absurdes qui surgissent, c'est complètement son univers à elle, quoi. Donc pour nous c'est pas tant un message que de se dire peut-être que si on regarde plus précisément les gens, et ben on voit des choses qu'on s'attendait pas forcément à voir. Voilà.
D'accord. Alors, spoiler alerte, tomber comme une mandarine. Ça vous est venu comment ça? Tomber comme une mandarine. Bah, parce que c'est ce qui m'a marqué. En
fait, bah ouais, c'est bien. Enfin, prenez une mandarine et on l'a fait tomber, et voilà. C'est venu comme ça, je trouve. Ça roule, quoi.
Comment avez-vous organisé la mise en scène et les décors?
Alors, on a travaillé. D'abord, la première chose, c'était la présence des musiciens. C'était la première chose, c'est que les musiciens sont là sur scène. Donc, on a vraiment l'idée d'un concert, quoi, d'être en concert. Puis après, on a travaillé avec les ateliers du Préau, avec Michael Pruneau et l'équipe du Préau sur comment on pouvait faire aussi évoquer, je dirais, cet univers cassé de la ville. C'est pour ça qu'il y a des panneaux comme ça qui apparaissent, aussi avec Laurent Poussier qui fait la lumière et Adèle Grépinet. Donc comment on peut essayer de faire, sans trop l'illustrer, parce que c'est un monde imaginaire aussi, mais enfin, l'évoquer, cette ville-là qui apparaît comme ça sur le plateau, en étant en même temps dans un théâtre où on est complètement au présent du concert, quoi. Donc, voilà. Donc c'était ça l'idée, quoi.
Et la musique? La musique, c'est une grande partie du spectacle. Alors, comment ça s'est passé pour la créer, la mise en place de la musique?
Eh ben, on commence par du travail d'improvisation, en fait, à partir de... Le texte n'était pas terminé quand on a commencé à écrire la musique aussi, donc... On est parti du début du texte, on a fait de ce que je me souviens, hein, des improvisations. Ayla et moi, on n'avait jamais écrit de musique ensemble, composé de musique pour les spectacles ensemble, même si on l'avait fait dans d'autres cadres avec d'autres spectacles et d'autres personnes. Et puis, petit à petit, on essaye des choses, on voit ce qui nous plaît à nous deux, ce qui fonctionne aussi avec les comédiens. Et puis, on était quand même une équipe de 6 personnes avec... Adèle Grépinet et Fred Bull qui étaient aussi tout le temps là pendant la création, et on a beaucoup discuté de ce qui fonctionnait, de ce qui fonctionnait pas, et petit à petit ça s'est fait assez naturellement, voilà. En même temps que le texte avançait, on déroulait la musique comme ça. Oui. Voilà.
Y a-t-il un message à retenir de la bataille des Scandards?
Je peux redire l'idée que peut-être si je dis il y a pas de message, mais en tout cas il y a une énergie qui est de dire au fond c'est quand même une femme qui se réinvente une vie, quoi.
Oui.
Donc qu'au fond il y a cette possibilité qu'on a toujours dans la vie de pouvoir réinventer quelque chose, quoi. C'est peut-être ça l'énergie, voilà.
Et je dirais aussi de ne pas être réduit à ce qu'on représente socialement.
Ouais. Oui, il y avait un élément sur lequel j'aurais bien aimé revenir, c'est l'atelier notamment avec les scolaires et notamment les enfants sur cette collecte de rêves. Alors c'est peut-être plus ma sensibilité au bout d'un moment d'aller questionner ces éléments-là, mais aller chercher des rêves, j'imagine que ça doit aussi... On sait que les rêves, c'est pas toujours quelque chose de très structuré, qui peut être parfois assez bizarre à retransmettre. Dans quelle mesure est-ce que ça alimente peut-être aussi votre partie de création ou votre partie plus artistique? Voilà, comment l'aller-retour avec des élèves peut se faire
sur ce qui s'est déjà fait,
Oui, notamment sur Ménil-sur-Iton et sur Navarre.
Ben, on avait déjà créé la bataille des Scandards quand on a fait ces anthologies-là. Donc après, on est nourri de tout ça, mais la création avait déjà eu lieu. Mais après, nous, au moment des collectes et des anthologies oniriques, en fait, on perçoit plein de choses, on discute beaucoup aussi. Et à partir de tout ce qu'on perçoit, de ce qu'on reçoit aussi, c'est plein de moments. Moi, je suis toujours étonnée par la confiance aussi, les moments de confiance qui se créent dans ces anthologies, parce que les personnes nous livrent des choses quand même très intimes. Et voilà, et on se rencontre une fois, et puis peut-être qu'on se reverra plus. Et en même temps, c'est des moments forts. On vit beaucoup de choses très fortes et très belle. Et voilà, donc ça, c'est sûr que ça nous nourrit énormément de recevoir aussi tous les imaginaires différents que des gens, parce qu'on a interviewé des enfants de 4 ans et puis jusqu'à des personnes qui avaient 95 ans, donc aussi et de milieux très différents, avec plein de différences, et donc qui ont un rapport, qui ont tout un rapport au rêve, même si elles ne rêvent pas toutes, elles ont tout un rapport au rêve. Donc nous, on est nourris de toutes ces rencontres qui sont multiples, et voilà, je ne sais pas si...
Rêvons-nous pareil d'ailleurs, enfin, je ne me suis jamais mêlé de faire une collecte de rêves comme ça, mais j'imagine que ça doit être assez surprenant, parce que le rêve, on est vraiment dans des choses... pas forcément concrète en plus, ça peut être même des sensations qui peuvent être livrées. Est-ce qu'il y aurait quelque chose d'un peu, pas standard, mais en tout cas qu'on retrouverait dans les rêves, où c'est vraiment à chaque fois une nouvelle découverte, un nouvel étonnement?
Bon, nous on se pose pas trop cette question-là, on essaye justement de pas analyser les rêves et on fait pas ce travail-là, mais il y a quand même à force de faire des anthologies oniriques, il y a quand même peut-être des sensations qui restent, mais qui sont personnelles. Donc moi, je vais dire ce que moi j'ai remarqué. Moi, j'ai relevé beaucoup de rêves de gens qui rêvent de personnes décédées et qui continuent à les voir dans leurs rêves, comme si la vie se prolongeait dans cet espace-là. Et puis aussi une assez grande proportion de gens qui ne se souviennent pas du tout de ces rêves. Ça, je trouve que c'est quand même un peu marquant, quoi. Enfin, les enfants se souviennent plutôt hyper bien de leurs rêves, des rêves complètement zinzin et avec des imaginaires vraiment florissants. Et alors que chez les adultes, on a du mal à retrouver les rêves. Ouais, voilà, c'est ce que moi, je remarque comme ça.
C'est vrai que d'ailleurs, le mot rêve pourrait être attaché un peu à cette un peu innocence d'enfance. C'est peut-être aussi, quand on perd aussi peut-être ce côté...
Peut-être qu'on ne s'autorise plus à rêver.
Ouais, voilà. Bon, en tout cas...
Il y a quelque chose qui se ferme.
Bah, merci beaucoup d'avoir échangé avec nous. Nous étions avec le collectif Escandard qui jouait cet après-midi, notamment sur cette salle du Tangram. Merci beaucoup d'avoir échangé avec nous. Je me retourne vers notre réalisateur Thomas pour lui proposer une pause musicale, s'il le veut bien.
Le meilleur moyen de changer le cours de l'histoire, c'est d'en raconter. Mais les plumes de mon style ne troublent les cauchemars d'aucun banquier. Quand j'ai demandé des sources, on m'a dit c'est l'homme qui a vu l'ours. Qu'Adam et Ève étaient le couple Underwood, que la vérité n'est qu'une ruse de Sioux. L'histoire est racontée par une bande de mythos qui vendrait du Théo à la Vénus de Milo, qui ne vise que les ondes de plaisir dans nos cerveaux. Finalement, c'est peut-être les épines qui ont des roses, ou bien les monstres cachés sous les lits, qui ont peut-être peur des gosses de quartier. C'est dans les maisons closes qu'il y a les filles les plus ouvertes de l'humanité. Sur la map monde, plus forte est l'Afrique. Quand tu la regardes sur carte inversée, sais-tu que Jésus, dans aucune église de toute sa vie, ne mettra les pieds. Un conteur, c'est celui qui raconte ou qui comptabilise. L'histoire, c'est un peu comme une foi qui exige un rib. L'histoire est racontée par une bande de mythos qui vendrait du Théo à la Vénus de Milo, qui ne vise que les ondes de plaisir dans nos cerveaux. Finalement, c'est peut-être les épines qui ont des roses. Adam a inventé le péché, mais c'est son fils qui l'a breveté. Il se taille des steaks de burger dans les côtes d'une vache sacrée, se fait des rajouts à ses coiffures avec des cheveux d'indienne qu'il a scalpé. S'il donne de l'amour à son bétail, c'est pour s'assurer d'une viande maturée. Nos mémoires sont des bureaux d'études, faits d'informations et de quelques nuls. On ne déjoue pas le cryptage de l'histoire avec une passoire comme devant Canal+. Tout ce qui cohérent n'est pas forcément vrai. On voit pas vraiment le monde au casque VR. On est des aveugles avec les yeux bandés. Quand on marchera sur Mars, ce sera sur fond vert. Si aujourd'hui les hommes préhistoriques revenaient, on ne les laisserait même pas rentrer à Lascaux. Paraît que les Égyptiens sont des extraterrestres, ou peut-être que Dieu nous a privés de leur méthode. Les Kennedy disaient faut pas se laisser abattre, une devise qui n'a jamais rien empêché. Les frontières sont-elles tracées par des soldats, ou en vérité tracées par des banquiers? Paraît que Michel-Ange dessinait que les contours, qu'il avait des remplisseurs pour finir l'œuvre. Peut-être que Dieu n'a créé que ce qui nous entoure, uniquement pour qu'on colore le destin de l'homme. L'histoire est racontée par une bande de mythos qui vendrait du déo à la Vénus de Milo, qui ne vise que les ondes de plaisir de nos cerveaux. Finalement c'est peut-être les épines qui ont des roses. J'avance tout droit, reculons dans la frise chronologique. Je réponds aux questions par des questions quand je joue au Trivial Poursuite. Je crois que l'histoire me trompe comme la longueur du mot abréviation. Alors je veux plus savoir, je veux me protéger de mes propres démons. On a vécu par procuration les complexes de nos ancêtres. Je veux que mes gosses aient une vraie jeunesse. Je me méfie de ce qu'on leur enseigne. Je me méfie des dates, des noms, des il était une fois, des un tel a dit. Je leur ai donné des prénoms historiques pour que leurs homonymes et les oreilles qui sifflent. Vous cherchez une morale à l'histoire? Cherchez l'histoire de la morale. Si on n'a qu'une langue et deux oreilles, c'est pour qu'on écoute deux fois plus qu'on parle. Storyteller, un peu poète, un peu historien. Retenez que dans la magie tout est faux sauf le magicien. Et quand la légende devient réelle, ne retenez que la légende. Dans l'Odyssée depuis, préférez la version sans les gens. On n'est jamais si petit qu'en étant auprès des grands. J'ai l'intention de l'écrire, l'histoire nous sera indulgente.
Médine avec le titre Story Teller, également le titre de l'album Médine que nous retrouverons en clôture du festival Dédale vendredi soir dans la salle du Cube. Nous sommes toujours en direct, en live et en public du Cadran à l'occasion du festival Dédale.
Principe actif.
C'est une radio libre.
Oui, je sais.
Alors, c'est une radio libre.
Je suis au courant. Je suis au parfum.
À Évreux, 102.4. À Verneuil-sur-Avre. À Breteuil-sur-Iton, à Conches-en-Mouche, 95.9.
Et on a oublié de le préciser en quittant le tableau avec le collectif des Scandards, mais ils jouent également jeudi 19, la bataille des Scandards au Cadran, et vous pourrez encore vous rapprocher de la billetterie, bien entendu. Nous poursuivons cette émission et notamment Manon, vous avez fait des reportages durant la matinée, si j'ai bien tout suivi.
Oui, c'est ça. On a été donc faire des micro-trottoirs à la sortie donc du spectacle Le Garçon du dernier rang qui était joué ce matin à 10h.
Et donc vous avez traîné votre micro en sortie de la séance. Et bien, je vous propose qu'on écoute ce que vous avez collecté alors.
Qu'est-ce que tu as pensé du spectacle? Comment c'était?
Plaisant.
Non.
Très bien, très 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 bien. Beaucoup de réflexions, beaucoup de références. Notre cerveau n'est pas inactif pendant une heure. Voilà, pendant ce spectacle.
Génial, il y a toujours à revoir. Voilà.
Par un collègue de français au collège.
Bah, très bien, je suis très content de la manière dont le texte est mis en valeur.
Bah, ça m'a vraiment surpris, j'aurais pas pensé que ça finirait comme ça en écoutant le résumé, mais bien surpris en tout cas.
C'était bien, j'ai bien aimé la mise en scène et voilà, c'était bien, pareil.
Oui, c'est la mise en scène qui m'a le plus plu aussi.
Et qu'avez-vous pensé du spectacle?
Je trouve qu'il était bien,
Il était intéressant.
J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé la mise en scène. Et j'ai bien aimé la critique. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai interprété, la critique par rapport à ce que l'art aussi peut apporter. Le côté négatif, peut-être, surtout vis-à-vis du prof. Et donc aussi un peu la critique de l'éducation nationale.
J'ai beaucoup aimé. Je trouvais que c'était un superbe spectacle. Tout était bien construit.
C'est une histoire assez intéressante, assez troublante aussi. Sujet de l'adolescence et travaillant dans un collège, forcément quelque chose qui m'intéresse. Donc c'était passionnant. Quoi, voilà.
En globalité, c'est bien monté. Il y a du contenu. J'ai discuté avec un ingénieur son qui m'a expliqué comment il mettait tout en place. En fait, le principe de cette découverte, c'est aussi pouvoir discuter avec les artistes et discuter aussi avec tout le staff technique. Donc, c'était vraiment intéressant. Merci.
C'était bien.
Ouais, c'était cool.
C'était bien.
Ouais.
Franchement, on ne s'attendait pas à ce que ce soit aussi bien, genre.
C'était intéressant. Intéressant, ouais.
C'était donc la parole que vous avez collectée, Manon, tout à l'heure, en sortie de spectacle du garçon du dernier rang qui se jouait ce matin. Alors, vous n'étiez pas les seuls à aller interroger et à prendre du son. Vous l'avez compris, nous sommes en partenariat avec le service jeunesse sur la production de ces émissions, qui sont d'ailleurs vidéo diffusées sur les réseaux sociaux, sur notamment... le Facebook de... Alors attention, c'est événements, services jeunesse, on trouvera hein, si on cherche. Voilà, je me retourne vers nos amis en régie qui sont justement en train de produire toutes ces images. Il y a toute une équipe également qui a été bossée et il y avait un de nos camarades qui a travaillé ce matin aussi.
Oui, c'est ça. Ragus a été pour nous faire un petit bord des scènes après le spectacle avec les artistes. On vous propose d'écouter ?
Alors c'est ça les aléas du direct. Hein. Pourtant on l'avait bien fait Manon, hein, je trouve. Hein. On était plutôt bien. On était plutôt bien dans le lancement. Et puis bah voilà, la technique, ce sont les joies de la technique. Des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas. Mais voilà, on est. C'est la beauté du direct. Si on pouvait rallumer juste le micro de Manon afin qu'on puisse l'entendre, parce qu'elle est en train de me parler quand même. Hein. C'est ça, tu nous disais, c'est la beauté du direct.
C'est ça, c'est la beauté du direct, exactement.
Ben oui, on construit cette émission avec la matière qui est sur place. Et c'est toute la difficulté aussi de pouvoir être en interaction avec les uns, avec les autres, fabriquer la matière, la diffuser. Elle est pas vieille, cette matière, elle est toute fraîche. Préparer l'émission, là, sur cette table même, 5 minutes avant le début de l'émission, on était en train de gratter du papier. Hein.
Exactement.
Voilà, donc on continue même à en gratter durant l'émission, hein, c'est pour vous dire.
On ne s'arrête jamais.
Bah voilà, c'est les joies de faire du live. Je vais juste jeter un petit coup d'œil en technique, savoir si ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, je vous propose que nous retrouvions le deuxième micro-trottoir que vous aviez tourné ce matin, en sortie de... Oui, parce qu'on l'a découpé en deux, hein, le micro-trottoir que vous avez tourné ce matin. On écoute ce deuxième micro-trottoir et puis on verra si tout ça nous laisse le temps de récupérer le son de l'échange public qu'il y avait eu après la séance du garçon du dernier rang. En tout cas, là, on retrouve la sortie de salle.
Qu'est-ce qui t'a marqué le plus durant le spectacle ?
La bande-son.
La bande-son ?
Ouais.
C'est ça qui t'a marqué le plus durant le spectacle ?
Ouais.
Marqué
durant le spectacle, réellement la mise en scène, la scénographie et le dialogue entre les espaces du tube, différents cubes, en fait.
Déjà la scène, la boîte, c'est génial. Le fait de se balader dedans, de passer de l'avant-scène à l'intérieur, les séparations, les portes coulissantes, l'évolution du décor en permanence, et puis les comédiens dedans, enfin, il y a énormément de choses, quoi.
Je sais pas comment dire ça, mais c'est les passages qui sont assez pour les adultes, mais après, c'était pas forcément gênant. Mais ouais, c'est pas des choses qu'on a l'habitude de voir. C'était hyper bien, que c'était intéressant et que... Ouais, c'était hyper bien. Je pense que je reviendrai.
Les comédiens, ils étaient sympas et ils faisaient une scène très agréable et tout. Voilà, j'ai bien aimé. Il était bien.
Il était bien.
Mais c'était un peu choquant.
L'inventivité de la mise en scène, avec tout le dispositif des panneaux qui bougent,
l'arrière-plan, le premier plan, etc. C'est très inventif et très bien trouvé.
Ah, génial. J'ai trouvé la mise en scène, les acteurs, tout vraiment superbe. Ah, je suis enchantée.
Bah, très intéressant, très sympa. Assez surprenant aussi dans la mise en scène.
Oui, moi, c'est la mise en scène que j'ai bien aimée avec le jeu entre les écrans, l'intérieur et l'extérieur, justement, la profondeur.
Pareil.
Bah, tout. Enfin, surtout quand... Alex, il faisait de la guitare et il y avait la musique, c'était un peu triste et tout.
Ben, à la fois le sujet et la mise en scène aussi, j'ai beaucoup apprécié.
C'était les décors, l'incorporation des décors dans la scène, puis le jeu d'acteur qui était vraiment super.
Ce qui m'a marqué, c'est la montée en fait de l'histoire. En fait, j'ai l'impression que ça démarre un peu doucement et puis plus ça va, plus ça prend. De l'ampleur quoi,
en fait, la mise en scène et en fait le déplacement des artistes à
en
différents niveaux.
Tom il est en haut et il dit c'est la fin et tout. Moi j'ai cru qu'il allait se suicider et tout, du coup ça m'a bouleversé.
Voilà, c'était les paroles recueillies par l'équipe de jeunes, à savoir Laetitia, Xavier, Junior, Célie et Manon. Vous avez bossé sur toute cette partie-là et c'était plutôt pas mal. On essaiera de retrouver, de revenir un peu plus tard dans l'émission sur le garçon du dernier rang avec notamment les extraits qui ont été tournés par Raguse et qu'on va essayer de vous mettre jusqu'à vos oreilles, voilà, les aléas techniques. Ça nous donne l'occasion, Manon, de revenir un petit peu sur ces éléments-là, parce qu'on est en train de dire, voilà, on a des problèmes techniques, même dans les grands médias, ils arrivent à avoir des problèmes techniques, donc il n'y a pas de raison que nous non plus, on n'ait pas le droit à nos problèmes techniques.
Exactement.
Mais ça me donne l'occasion de revenir un petit peu sur cette journée. On expliquait aux auditeurs que nous fabriquons cette émission avec la matière que nous avons, que nous grattions du papier jusqu'à 5 minutes avant le démarrage de cette émission. Toi, Manon, qui n'avais jamais spécialement construit d'émission de radio, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça s'est construit aujourd'hui, cette émission, et comment vous l'avez-vous vécu ?
Ça s'est fait d'une manière toute simple. On a découvert un petit peu, on a découvert clairement le monde de la radio aujourd'hui. On a mené des interviews comme des vrais petits journalistes, et puis on a été échanger avec le public, les trouver à la sortie des salles et découvrir aussi eux leurs avis. Puis en début d'après-midi, on a été aussi nous-mêmes découvrir donc le spectacle de la bataille des Scandards et on a continué donc de monter cette émission de radio avec toi tout au long de l'après-midi.
Alors c'est beaucoup de papier, on peut le dire, hein, c'est fabriquer une émission de radio, on a beau parler tout au long, il y a quand même je ne sais pas combien de feuilles complètement noircies sur la table. Vous avez beaucoup écrit aujourd'hui.
Oui, c'était toute une petite organisation, on a pas mal gratté, ça s'est bien passé.
Bah ça, c'est plutôt l'essentiel alors. Voilà, ça nous a permis aussi de mettre en lumière aussi votre travail qui est loin d'être anodin, bien entendu. Thomas, je vous propose que nous partions sur une pause musicale avant de retrouver à nos plateaux, notamment Célie et Junior, et puis retrouver aussi la partie envers du décor, à savoir les personnes qui s'occupent des relations publiques.
solves everything.
Alors c'était Neus et la chanson Katharina. Nous sommes toujours en direct du cadran au festival d'Eda.
Le cas condamne une nouvelle fois les radios libres. Les autoriser, dit-il, ce serait l'anarchie des ondes.
Principe actif par principe actif ou actif par principe, c'est principe actif.
L'équipe, des bénévoles tout à la fois techniciens et journalistes, tous ont en commun de faire une radio libre.
Principe actif.
Alors, nous recevons Caroline, Marie, Nathalie et Christelle. Alors, vous êtes chargée des relations avec le public au Tangram. Donc, bonjour.
Bonjour.
La première édition du Festival des Dalles a commencé hier. Depuis quand travaillez-vous sur ce projet ?
On a commencé à travailler sur le projet, en fait, en septembre dernier. On avait la programmation en fin d'année dernière, en mai 2017. Alain me fait signe que j'ai trop bu, mais c'est pas vrai. on a eu la programmation en mai 2017 et l'idée c'était de co-construire ce festival avec plusieurs personnes d'horizons très différents. Donc on a lancé la préparation du projet en septembre.
D'accord. Et en quoi consiste votre rôle dans le festival ? Et pouvez-vous nous parler de votre métier ?
Vous avez la nuit ? moi, mon rôle, en fait, dans notre équipe, on est toutes plus ou moins spécialisées dans différents domaines. Hein. Nat, c'est plutôt...
Moi, j'ai plutôt le secteur des adultes, voilà, des grands, des associations, des comités d'entreprise, des relais individuels, toute personne adulte qui pourrait être intéressée par un projet lié au spectacle vivant et donc d'aller vers des publics très différents, en fait.
D'accord.
Moi, c'est Christelle, donc je suis sur tout type de public confondu, pas de tranche d'âge en particulier, ça peut être des petits, des enfants avec des projets en classe, d'aller amener des artistes en classe et mener des ateliers, et je peux travailler aussi avec des adultes, et je suis plus orientée sur des projets musique, mais pas seulement, voilà, le projet du Tangram étant pluridisciplinaire, on touche à toutes les disciplines artistiques.
Il manque une de nos mousquetaires au micro, puisqu'on a aussi Cécile qui s'occupe plus particulièrement du jeune public et du public étudiant. Et moi, donc Caroline, je m'occupe plus du secteur jeunesse et des ados. Donc évidemment, le festival était une de mes premières missions. Et après, c'était rallier toute l'équipe et d'accueillir en notre sein notre petit padawan Marie.
Et moi c'est Marie, du coup le jeune padawan qui est arrivé dans l'équipe, parmi cette équipe de 4 relations publiques en février dernier. Et moi je m'occupe plus particulièrement du projet des veilleurs qui se déroule depuis le 22 septembre 2017 jusqu'au 22 septembre 2018 et le comité de pilotage jeune sur le festival Dédale, où je suis la référente avec Caroline sur toute la durée du festival.
Et comment on aborde le travail d'une semaine aussi dense?
En buvant beaucoup de café, d'abord. En respirant à fond.
En mangeant des chouquettes aussi, tous les matins, pour donner du sucre.
Et surtout en étant hyper zen. En fait, c'est des journées extrêmement denses, puisqu'on commence le matin à 8h15 et on finit le soir à minuit passé. Mais on n'est pas tout seul. Hein. Il y a toutes les équipes artistiques. On a tout un comité de jeunes qui nous suit et nous épaule sur toute la semaine. Ils sont une quinzaine. On est toutes les cinq. On a toute l'équipe technique. Enfin, voilà, c'est... au bas mot, une cinquantaine de personnes investies sur la bonne marche du festival tout au long de la semaine. Et c'est un peu comme un marathon. On commence, on se dit que ça va être long et fatigant. Et une fois qu'on est lancé, on ne s'arrête plus.
Nous avons interrogé de jeunes ce matin. À la sortie du spectacle, nombreux nous ont répondu que c'était la première fois qu'ils venaient au festival et voir du théâtre. Est-ce si difficile de venir dans un théâtre de nos jours?
Oui, disons-le. En fait, il y a deux types de publics. Il y a un public qu'on appelle captif, qui sont des groupes scolaires où il a d'abord fallu convaincre les profs que les spectacles étaient intéressants, que ça valait le coup, que les jeunes soient déchargés de cours sur l'ensemble de la journée et qu'ils affrontent le reste de leurs collègues pas contents qu'on leur ait confisqué la classe. Et ça, et après, il faut convaincre les jeunes que ce n'est pas simplement une journée qui ne sert à rien, mais que ça va être dense en rencontres, en émotions, en réflexion, en investissement. Ça, c'est notre but premier. Et puis, il y a les publics qu'on appelle les publics non captifs. C'est ce qu'on va essayer de faire demain, la journée du mercredi, sur, tout au long de l'après-midi et toute la soirée, en proposant des scènes.
Comment vous avez découvert votre...
J'ai rien découvert.
Petit problème technique.
Donc, je termine juste. Donc, il y a des scènes ouvertes musicales où donc des jeunes vont se succéder tout l'après-midi. Des espaces danses qui vont être animés par la compagnie Breaker, qui vont un petit peu mettre en appétit pour le spectacle de danse hip-hop du soir. Voilà, on va proposer deux représentations des spectacles du festival dans cet après-midi. Et il va y avoir tout un collectif de jeunes de l'Amicale de Navarre qui va être présent pour vendre des gâteaux, des choses comme ça. Enfin voilà, ce qu'on aimerait, c'est créer le buzz et créer une discussion entre des jeunes qui ne se connaissent pas, qui ne se seraient jamais rencontrés s'il n'y avait pas eu le festival, et qui à un moment partagent quelque chose qui est une expérience forte.
Alors, oui, sur la question de est-ce que c'est évident ou facile de faire venir pour la première fois des personnes, des jeunes ou autres du public ici, voir un spectacle vivant. Alors, oui, c'est nos missions premières. On est, voilà, c'est vraiment des métiers pour aussi médiatiser une telle manifestation. Ça veut dire c'est inventer. Créer des liens, créer des projets, inventer des liens avec des partenaires. Alors, Caroline, sur les collèges et les lycées, les établissements scolaires, nous aussi, c'est d'aller voir bien des associations ou alors des partenaires. Hein, quand on est allé voir la radio Principe Actif pour proposer ce festival Dédale, c'était aussi d'expliquer le contenu, de co-construire ensemble ce qu'on pouvait aller faire. C'est d'aller chercher aussi la web TV, c'est aussi travailler avec les amicales des quartiers d'Évreux. Et donc, voilà, en fait, c'est en rencontrant, en essayant de tisser, de se donner envie ensemble sur un contenu artistique. Voilà. Donc, c'est vrai que quand on y va, on parle, contenu artistique, spectacle, ce que ça travaille, mais aussi une dynamique autour de cela, en fait. Donc, c'est d'aller beaucoup rencontrer. Voilà, de repérer aussi qui est acteur du territoire, comment ça vit, comment ça travaille, et ce que nous, en tant que structure culturelle et artistique, on peut vraiment être là pour répondre aussi à une envie et un besoin. Je crois que ça l'a été dans ce festival, en fait, où en fait l'écho de cette proposition a très vite marché avec les partenaires, parce que on a vu que ça attirait.
Au-delà des spectacles, c'est surtout l'aspect humain. Et c'est, notre question, c'était comment faire que ce festival ne puisse se faire que sur Évreux, avec des gens qui occupent tout le territoire d'Évreux et des environs, et comment aussi faire croiser les publics. Ça, c'est quelque chose d'important. Ce n'est pas parce que vous avez 15 ans, 18 ans, que vous fréquentez les mêmes milieux, que vous avez les mêmes activités. Et l'idée, c'était d'ouvrir au maximum et de proposer une gamme de propositions très diverses les unes des autres, aussi dans les activités autour des spectacles, de telle façon à ce que vous ayez un accès à la culture ou pas, que vous aimiez chanter ou danser pour vous, vous puissiez à un moment avoir un espace commun. Et que vraiment, enfin, le maître mot, c'est se rencontrer et faire ensemble.
Oui, c'est tout à fait ça.
Le coup de cœur, quel est l'événement que vous attendez de plus ?
Pendant la semaine.
Oui, pendant la semaine. Oui.
Chacune différente. Ouais. Vas-y.
Je réfléchis. coup de cœur, celui que j'attends. Eh bien, ce soir, Europe Connexion. Oui. Intriguée, j'ai envie de découvrir cette expérience sous casque, cette immersion. Pour moi, Europe Connexion.
Alors moi, c'est la traversée Karine Serre, métro Verlaine, à 18h30 tout à l'heure, parce qu'on a travaillé avec le collège Pablo Neruda, un groupe de jeunes et un groupe d'adultes, dans un atelier d'écriture toute l'année, Karine Serre étant l'auteur en résidence d'écriture cette année, et on passe des moments forts, et juste, ça va déchirer.
Moi, pour ma part, c'est demain matin, en fait, je vais aller au collège de Saint-André-de-l'Eure et ils sont venus voir le White Dog cet après-midi et ils ont fait une première partie avec une exploration avec Céline Laurency lundi autour du spectacle et j'ai envie de voir ce qu'ils en ont pensé parce que c'est des jeunes qui, pour la première fois, sont venus dans un théâtre et ont découvert Le Garçon du Dernier Rang et White Dog et plus particulièrement autour de White Dog, voilà.
Alors moi j'attends le concert de Moss Greytown, Doug Plateau avec Jeanne Horseman parce que j'ai mené des ateliers justement avec ce groupe-là dans plusieurs lycées. Donc bon, j'attends pas de les voir sur scène parce que je les ai déjà vus sur scène, mais ce que j'attends de voir c'est le comportement et la réaction des jeunes dans le public en fait. Voilà.
Ce qu'on peut dire aussi, sans se tromper, c'est que tous les jeunes qui font partie du comité de pilotage d'EDAL, eux attendent Médine. Voilà, oui. Vendredi soir. Et c'est pas les seuls.
Et je fais partie de ces jeunes qui attendent Médine.
Bienvenue au club.
Donc nous allons retrouver le Radio Trottoir sur le festival qui va passer.
Qu'il y avait un festival.
Par le biais du lycée.
D'abord, je suis là pour des raisons professionnelles, mais je ne le regrette pas. Sincèrement, c'est la deuxième fois que je vois la pièce et c'était génial les deux fois.
C'est mon collège qui a organisé la sortie et je ne m'attendais pas que ce soit aussi intéressant, en fait. Parce qu'on s'est fait une image du théâtre qui n'est pas forcément celle qu'elle est.
Venir au festival, avant tout, c'était un projet non mené au collège avec des élèves. Donc on a accueilli une troupe en résidence une semaine. Et ce qui a découlé, c'était la participation après au festival.
Alors moi, j'ai lu le livre et j'ai vu le film avec Lucchini et j'ai adoré. Donc puis là, j'ai accompagné mes élèves.
Je ne sais pas.
Ça avait l'air intéressant au niveau du résumé et puis on avait envie de découvrir.
Parce que j'aime bien le théâtre et différentes formes de théâtre et voilà.
C'est quand Caroline Clark est venue nous présenter tous les théâtres qu'il y avait cette année et elle nous a parlé des dalles et du coup elle nous a parlé des théâtres, elle nous a vendu la pièce et du coup ça avait l'air super sympa.
Parce que j'aime beaucoup le théâtre et je trouve que c'est intéressant.
Alors moi j'avais assisté à pas mal ça fait longtemps que je regarde le projet parce que j'ai côtoyé les gens qui travaillaient dans les assemblées par rapport à ça, du coup ça faisait longtemps que j'étais au courant, du coup je sais pas si c'est très objectif, mais du coup voilà, c'est comme ça que je me suis intéressée parce qu'il y avait plein de gens autour de moi qui préparaient ça depuis longtemps.
Déjà le fait que ça soit de tout âge, c'est d'enfants, adolescents, puis d'adolescents adultes, et le fait que il y a pas que des spectacles, il y a aussi de la musique, enfin il y a plein de choses et ça permet d'avoir plein de monde.
Mais en fait, on participe avec le Tangram depuis le début de l'année dans l'établissement où je suis, à un atelier d'écriture, donc avec Caroline Clark et Karine Serre. Et on a été invités en fait, pour pouvoir venir voir ce spectacle et un autre cet après-midi. Quoi.
En fait, je faisais partie des accompagnants des cordées des réussites au collège Georges Politzer. Et en fait, on m'a inscrit sur ce festival, mais je n'avais pas connaissance du programme du festival.
En fait, on est venu avec notre classe, du coup, c'était une sortie pédagogique. Enfin,
on travaille sur un projet et c'est un lien, on travaille sur du théâtre.
L'idée de faire découvrir le théâtre aux élèves et les amener à Évreux, leur faire découvrir les structures d'ici.
Comment avez-vous découvert le festival ?
J'ai fait un projet d'écriture avec Karine Serre et elle nous a fait découvrir... Enfin, elle nous a dit qu'il y avait un théâtre.
Un groupe d'écriture qui s'est installé au collège et Caroline Clark était dedans et on était conviés au festival.
Voilà, c'était à nouveau des festivaliers qui étaient au micro de notre équipe de jeunes qui ont œuvré ce matin. Nous l'avons évoqué tout à l'heure et Caroline, notamment, juste avant, l'évoquait dans ce qu'elle attendait en particulier sur le festival, à savoir la traversée, la rencontre du groupe Métro Verlaine et de Karine Serre. Je vous propose tout de suite, parce que les jeunes ont été très indiscrets avec leur micro, ils ont été laissés traîner du côté de l'espace de travail. Nous retrouverons la version finale ce soir à 18h30, d'ailleurs c'est bientôt, d'ici une demi-heure vous pourrez accéder au club du Cube pour pouvoir voir le fruit de ce travail, mais pour vous mettre un petit peu en haleine, on va écouter ce que les jeunes ont récupéré avec leur micro indiscret. extrait de ce moment de travail qui se passait dans le club du Cube. Vous êtes bien entendu tous invités, ça ne nous coûte pas bien cher hein, vu que l'entrée est gratuite, mais en tout cas on tient absolument à tous vous inviter à voir la restitution justement du travail de Métro Verlaine et de Karine Serre. Un petit générique en tapis pour conclure, et puis il est l'heure d'arriver vers la fin, je crois, Manon, non ?
Oui, bientôt.
Eh ben c'est maintenant même, hein. C'est même pas. Oui, ça marche très bien. Je vois qu'il te plaît pas ce micro-là.
Non, j'aime pas le vert.
Ah, t'aimes pas le vert, tiens.
Ah, c'est gentil, merci.
Voilà,
merci.
Je te mets le rouge, ça va mieux à ton teint, c'est
ouais,
ça ?
Ouais, c'est ça. Ça sort mieux mes joues, je trouve.
Eh ben vas-y alors. Bon, c'est vers la fin, là. On est vers la fin, hein.
Oui,
c'est maintenant.
Oui, c'est ça. Donc, c'est maintenant la fin de notre émission. Nous remercions la radio Principe Actif de nous avoir accueillis sur le plateau aujourd'hui. Merci à Xavier, Laetitia, Junior et Céline d'avoir construit notre émission. Tout s'est bien passé pour nous ?
Non, non, c'est mal passé.
Non, ça s'est mal passé.
Qu'est-ce qui s'est passé, hein. Laetitia ?
Ouais. On a été mal accueillis déjà.
Non.
L'eau était chaude.
Alors, pour tout expliquer aux auditeurs, nous travaillons derrière la baie vitrée du cadran.
Ouais,
donc,
génial,
effectivement, on a été sous serre toute la journée.
Non, mais ça s'est très bien passé.
Ouais.
Voilà, j'ai pas fait d'erreur en radio.
En public. Donc, globalement, tout s'est bien passé.
Ouais, carrément.
Ouais, c'était super.
Eh bien, parfait, alors.
Alors, vous pourrez donc nous retrouver jeudi à 17h pour une prochaine émission en compagnie des élèves du micro lycée Aristide Briand. Et nous, on va aller écouter le concert gratuit de Métro Verlaine au club. Passez une bonne soirée.
Et pour Radio propulser tous nos échanges et toute cette émission, nous avons bénéficié bien entendu de la complicité du Tangram. Nous avons également bénéficié de la complicité exceptionnelle de Cécile qui nous a quand même mis tout aux petits oignons hein, du début à la fin. La complicité également du service jeunesse qui a vidéo diffusé les plateaux sur les internets. J'arrive jamais à dire sur quel Facebook, hein, c'est terrible, il va falloir que vous me fassiez une fiche. Hein.
C'est le Tangram.
Oui, alors ça sur le Tangram, oui, mais sur le Facebook événement service jeunesse de la ville d'Évreux, exactement.
Ah
vous voyez,
non,
je vais finir par y arriver vendredi, je vous le ferai en un seul tour. Merci beaucoup à tout le monde. Bah, restez à l'écoute de nos programmes. Nous, on file, hein. On va aller voir Métro Verlaine et Karine Serre. Hein. C'est ce que tu nous avais dit,
c'est
Manon.
Ça.
Allez, bonne soirée à vous.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
À bientôt.
Soirée.